Cap à Cap, Jacques Lavergne, bonjour. Aujourd'hui, Cap à Cap avec un écrivain de qualité et de talent.
Bonjour.
Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie, et il vous a dit bonjour, je le salue aussi, bonjour Benoît Séverac. Alors je vous ai présenté comme un écrivain de qualité et de talent, d'abord parce que c'est vrai, donc c'est mon avis et que je le partage, c'est important. Ensuite parce que c'est une précision qui n'est pas inutile à une époque où il est coutume de dire plaisamment qu'il y a plus de gens qui écrivent que ceux qui lisent, ce qui n'est pas tout à fait faux. Tant il est vrai que beaucoup ont aujourd'hui le prurit de l'écriture. Mais malheureusement, la qualité n'est pas toujours, et peut-être devrais-je dire pas souvent, au rendez-vous. Je sais, je suis un peu sévère, mais avec vous, elle est au rendez-vous, et je n'en suis donc que plus heureux de vous recevoir à mon micro. Alors Benoît Séverac, si je veux faire la règle de trois, comme on le fait sur une excellente émission d'Arte, votre règle de trois, c'est l'anglais, le vin et l'écriture. Alors comment tout ça se marie ?
L'anglais se marie avec beaucoup de choses en fait. Les Anglais sont d'ailleurs de très bons dégustateurs et très bons.
Ils sont plus que dégustateurs, ils sont des buveurs.
Ils sont des buveurs,
mais
des très très bons dégustateurs aussi. Ce sont, faut pas oublier que 60% du marché mondial transite par Londres. Donc l'anglais et le vin, ça marche. La littérature, évidemment, j'ai étudié la littérature anglaise et américaine avant de. Enfin, au moment où je me formais comme jeune prof, mais c'est la littérature est donc là aussi en place. J'écrivais déjà, et aujourd'hui, je suis un peu bancal parce que j'avais trois pattes, donc maintenant je n'en ai plus que deux. Je continue à déguster.
Avec deux, on va loin quand même.
Ça marche, on marche ça, avec deux pattes, on arrive à marcher, ouais.
Ça veut dire que vous étiez destiné d'entrer à une carrière d'enseignant.
Ouais, j'ai eu beaucoup de petits boulots différents avant de jeter mon dévolu sur l'enseignement. C'était un peu des rencontres, bah comme souvent, je pense, les métiers, c'est un peu des rencontres par hasard qui vous font prendre conscience que bon, là, vous auriez votre place. Et c'est pas très très éloigné du métier d'écrivain, je trouve. J'écrivais déjà, hein, sauf que évidemment, il faut payer les factures. Mais et puis, il faut prendre conscience aussi qu'on est écrivain. Il faut l'assumer, il faut lui donner toute sa place. Et ça prend du temps. C'est pas une expression ou un art qui naît un petit. C'est le contraire du rock'n'roll, quoi. Rock'n'roll, on est célèbre à 20 ans, mort à 27. Et j'ai l'impression que la littérature, c'est plutôt à partir de 30 ans, 40 ans qu'on commence à vraiment émerger. Mais oui, l'enseignement, j'ai adoré ce métier. C'est de la transition aussi. C'est être à l'écoute de l'autre. C'est donc des choses, des qualités qui, je pense, ressemblent à celles qu'on doit avoir quand on est écrivain.
Alors vous avez, et là vous avez rejoint une de vos autres passions, vous avez enseigné dans le master d'œnologie de Toulouse.
Oui, j'étais en poste à l'école vétérinaire de Toulouse pendant très longtemps.
Vous enseignez à qui, aux animaux, non pas aux animaux.
C'est une blague que je fais aux élèves de collège quand je passe dans des classes de collège. Je leur dis que j'étais enseignant à l'école vétérinaire et je précise que j'enseignais cela aux chiens, aux chats, avec beaucoup plus de difficultés pour les chats que pour les chiens. Et pendant quelques secondes, ils le croient. Mais ouais, c'était mon poste principal et j'étais aussi en charge effectivement du module d'anglais au diplôme national d'œnologie. À Toulouse, c'est une très très belle formation. J'ai adoré enseigner dans ce milieu-là aussi. Bon, j'étais plus ou moins spécialisé dans le vin parce que j'ai suivi des formations de dégustateurs, de sommellerie en Angleterre, en Alsace. Enfin, j'avais développé cette bivalence, cette compétence double. J'ai quitté tout cela pour me consacrer à l'écriture, mais avec
mais
une pointe de
toujours.
Regret.
Oh, vous buvez toujours.
J'apprécie avec plus ou moins de modération, mais j'apprécie beaucoup. Ouais.
Le fronton, vous l'aimez pas trop. Hein. Je dis ça parce que j'ai lu un livre dont on parlera tout à l'heure.
C'est le narrateur, pas
vous.
C'est le personnage même.
Vous me rassurez. Mais je m'y suis un peu retrouvé dans vos critiques.
Non, j'ai beaucoup d'affection pour le fronton qui a été mes premiers vins parce que quand j'ai découvert le vin rouge, moi en tant que haut-garonnais, je me suis naturellement tourné vers le fronton.
Alors vous avez dit, j'écris depuis longtemps. Depuis quand exactement? Et pourquoi ça vous a pris?
Alors, le pourquoi est compliqué à analyser. Il faudrait presque faire une psychanalyse pour cela.
On est là pour ça. Étendez-vous, dites-nous tout.
Combien je vous dois, surtout. C'est surtout ça qui m'intéresse.
C'est intéressant, oui.
Je me souviens, j'ai toujours eu ce lien avec l'écriture. J'ai toujours pensé que tout le monde avait ce rapport à l'écriture, que c'était commun. Et en fait, c'est beaucoup plus tard que j'ai compris que non, en fait, tout le monde n'écrivait pas. C'est encore plus tard que moi, j'étais déjà jeune papa et déjà en poste, que j'ai compris que ce que j'écrivais pouvait plaire aux gens. Mais ouais, à l'âge de 10 ans, je fabriquais déjà des bouquins avec de la ficelle à gigot, je reliais des pages, je les vendais à mes parents. À l'âge de 8 ans, je m'interviewais dans ma chambre quand j'avais lu un bouquin qui me plaisait, en prétendant être l'auteur. J'ai un souvenir très très précis de L'appel de la forêt de Jack London, où j'avais passé plusieurs demi-heures à m'interviewer sans trop savoir qui était Jack London. C'était pas ça la question. La question, c'était que j'arrivais trop tard pour raconter une histoire qui m'avait beaucoup plu et j'aurais aimé être celui qui avait raconté cette histoire. Et ça créait chez moi une grande frustration, une grande colère même.
C'est difficile parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de livres écrits. Pour trouver sa place, il faut jouer des coudes aujourd'hui.
Mais c'est l'émerveillement de la lecture.
Vous avez d'abord été un grand lecteur.
Oui, toujours aujourd'hui encore. Oui, bien sûr, je ne vois pas comment on peut écrire sans être un gros lecteur. On a envie d'être celui qui raconte ces histoires-là. Ouais.
Et donc un jour, vous êtes dit, non seulement je vais écrire un texte bien structuré, bien fait, bien léché, je vais le proposer à un éditeur.
Oui, alors ça c'est venu très tard, comme je le disais. À l'âge de 35 ans, j'ai participé à un concours, bien de chez nous d'ailleurs. C'était le concours du Lecteur du Val, qui est une association de bibliothèques du territoire du Sicoval.
En fait, du Sicoval, ça n'a rien à voir avec le pastis du Val.
Le poème, mais c'est, enfin que bien sûr que si, il y a une allusion, mais le pastis du Val, non, je le déconseille pour écrire. Non, voilà, là je me suis confronté pour la première fois de ma vie à un regard extérieur, et c'est toujours pareil, hein, c'est un peu le regard extérieur qui va déclencher des prises de conscience chez vous. Et j'ai participé à son concours pour rigoler, sous la forme d'un défi avec des amis. Et je l'ai écrit un petit peu par-dessus la jambe, cette nouvelle. Je l'ai écrite dans la nuit, chose qu'il ne faut absolument pas faire, mais que je
Pourquoi
ne fais plus. Oh, aujourd'hui, une nouvelle, je la cisèle, je la laisse décanter, je la retravaille, je mets 2-3 semaines pour écrire une nouvelle. Là, je l'ai écrite dans la nuit.
Enfin, c'est comme faire du vin, finalement, hein.
Oui, mais d'ailleurs, on écrit trop vite, trop souvent, et je trouve qu'on devrait laisser le temps. Et moi, je le vois, les bienfaits de la décantation sont énormes. Je vois tous les défauts me sautent au visage quand je suis en lecture d'un manuscrit que j'ai laissé reposer pendant plusieurs semaines. Bon, mais là, voilà, à 35 ans, j'ai vu que en faisant l'idiot, j'arrivais à intéresser un public averti, puisque dans le jury, il y avait quand même des gens, des lecteurs confirmés. Et là, je me suis dit, peut-être qu'en t'y mettant sérieusement, tu pourrais être publié. Et là, je suis rentré dans cette phase de égocentré où j'ai commencé à dire, je voudrais être publié. Je voudrais pas être écrivain, je me disais pas cela, mais je voudrais être publié. Et ça a mis plusieurs années avant d'arriver, quoi. Et c'est une longue traversée du désert.
Donc, vous déconseillez d'écrire sous l'emprise de l'alcool.
Oui.
Je sais plus quel américain, je crois que c'est pas Faulkner qui disait on écrit au bourbon et on corrige au café.
C'est ça. C'est oui, moi, mais oui, mais bien sûr que quand vous, il y a l'exaltation que suscite l'alcool, et puis quand vous vous relisez le lendemain, vous vous dites ben non, il n'y a aucune clairvoyance dans ce que j'ai écrit. Non, je pense qu'il vaut mieux être sobre. Mais.
Pour écrire, il faut maîtriser complètement ces petits neurones. Alors, vous faites partie de quelques écrivains, on en cite deux parce que je les connais et que je les aime, ce sont des amis, Gilles Vincent et Charles Aubert, qui avaient un métier fort sympathique, qui procuraient des revenus tout à fait corrects, et puis qui un jour décident de l'abandonner pour se consacrer totalement à l'écriture. Alors, comment il faut le qualifier, ça? C'est de l'inconscient, c'est de l'optimisme béat, c'est une sûreté de soi et de sa plume, autre chose peut-être.
Alors c'est pas de l'inconscience, parce que j'ai pris une décision, j'ai pris cette décision en connaissance de cause. Ça faisait quand même plusieurs années que mes bouquins marchaient de mieux en mieux, que j'étais de plus en plus sollicité pour faire des interventions scolaires, parce que j'écris aussi pour les ados, et ça ce sont des interventions rémunérées. Il y a la charte des écrivains que les organismes respectent. J'ai fait mon business plan, comme on dit, mais il y a surtout que ça s'impose petit à petit. Il arrive un moment où ça prend trop de place. Ça devient trop frustrant aussi de refuser des tas de projets littéraires qu'on vous propose, que vous êtes, auxquels vous êtes obligé de renoncer parce que vous avez un emploi du temps qui l'empêche. Mais et puis il y a aussi la fameuse Covid avec le confinement qui a été une vraie révélation pour moi. Le premier confinement notamment où à l'école vétérinaire on ne nous a pas demandé de faire des cours en ligne. On nous a demandé de mettre à disposition en ligne les cours, mais pas de face à face par visioconférence. Donc ça m'a laissé, on va dire, 4 semaines de libre pour lire et écrire. Et là, j'ai pris conscience que c'était la vie que je voulais mener et qu'il n'était plus question que je continue à ce rythme-là, à savoir avoir 2 métiers. J'étais épuisé physiquement aussi. C'est compliqué d'avoir 2 métiers à temps plein. Et puis, la vie aussi, les enfants qui partent et qui n'ont plus besoin d'être subventionnés, on va dire. Et puis, un bouquin comme « Tuer le fils » qui fait que je passe à la grande librairie de François Bunel juste à 15 jours du confinement. Et ça a transformé ma carrière. Ça a été un tournant dans ma carrière littéraire, en littérature adulte.
« Tuer le fils », c'est un polar ?
« Tuer le fils », c'est un polar.
C'est du vécu ou non, pas quand même ?
Pas du tout. Non. Mon fils va très bien, merci. Non, c'est du vécu au départ, comme toujours. C'est-à-dire que « Tuer le fils », c'est des ateliers d'écriture que j'ai animés en prison au centre de détention de Muret et qui m'ont marqué quand j'ai vu les profils des détenus et l'impact de l'enfance sur le parcours de vie. Bon, j'enfonce des portes ouvertes en disant ça, mais quand on le vit en face à face, quand on met le doigt dessus, quand on palpe ça, c'est marquant, ça m'a marqué. Ouais. Donc j'ai eu envie d'écrire là-dessus. Ça a été un tournant dans ma vie, ce roman, véritablement.
Quand on en fait un métier, véritablement, donc il y a aussi une connotation financière, est-ce que le plaisir est toujours le même d'écriture ? Est-ce que... Il faut produire, là. On vit de ça. Est-ce que ça change pas un peu la face des choses ?
Moi, les rapports que j'ai avec mes éditeurs ne sont pas dans ce sens-là, ne me mettent pas la pression sur des sorties à venir. Moi, je vois bien que oui, il faut que je produise.
Les droits d'auteur vous mettent la pression, sans vous parler de l'éditeur sur lequel on reviendra.
Alors, c'est peut-être le privilège de l'âge, mais je ne suis pas affolé par tout ça. J'avais mis assez d'argent de côté pour vivre un an ou deux sans rien gagner. C'était ça aussi le fruit de cette décision qui n'était pas du tout...
Politique de l'écureuil, voilà, des noisettes.
Bien sûr, mais voilà, au lieu d'épargner, de faire un plan épargne-retraite, moi j'ai mis de côté de l'argent pour pouvoir vivre un an ou deux. Et je m'aperçois que je n'ai pas touché à ce matelas, quoi, que ça marche bien, ça va. Et en fait, j'ai pas besoin de... Ouais, je me suis jamais mis la pression là-dessus et le plaisir est toujours le même. C'est le rythme est différent parce que j'ai beaucoup plus de sollicitations à droite à gauche, donc je voyage beaucoup plus, je suis beaucoup plus en déplacement et il y a moins de régularité dans mon écriture. Je m'aperçois qu'avant j'écrivais tous les jours un petit peu. Là maintenant je peux passer des périodes de 15 jours, 3 semaines sans écrire, mais je sais qu'après derrière je vais m'isoler complètement pendant 4 semaines par exemple et disparaître complètement de la vie, de toute vie sociale ou professionnel, et je vais me retirer pour écrire. Et là, j'écris beaucoup plus qu'autrefois. En 4 semaines, j'arrive à écrire autant que ce que j'écrivais autrefois en un mois ou deux ou trois.
Ça veut dire que le métier est rentré.
Je pense que nécessité fait loi. Il arrive un moment où on arrive à trouver des... On s'arrange avec son emploi du temps. On se débrouille toujours pour arriver à écrire.
Si j'écoute ce que vous dites, finalement, être écrivain, contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est pas être enfermé chez soi avec son cahier, son ordinateur, chacun a ses méthodes. Il faut beaucoup sortir, il faut se montrer, il faut aller au contact des gens, des lecteurs.
Alors, je pense que ça va vraiment dépendre de qui vous êtes dans le milieu de l'édition. Il y a des gens qui vendent énormément et qui n'ont pas besoin de se bouger, de sortir, de se montrer pour continuer à exister. On les attend de toute façon. Ils gagnent assez avec leurs droits d'auteur pour vivre allègrement pendant jusqu'à la sortie du prochain. Moi, c'est pas mon cas. Je suis pas connu à ce point-là. Mes ventes ne sont pas suffisamment élevées. Donc, j'ai besoin effectivement de faire des rencontres scolaires, comme je le disais, qui sont rémunérées, de faire des lectures musicales qui sont rémunérées, de faire des rencontres en médiathèque qui sont rémunérées, et aussi, oui, de me faire connaître, c'est-à-dire d'aller dans les librairies, etc. Bon, de là à vous dire que ça me pèse, non. C'est un plaisir. Moi, je suis un animal social, j'adore ça, quoi. Et alors, non seulement j'aime aller à la rencontre des lecteurs ou de tous les gens qui gravitent dans le milieu du livre, parce qu'il y a quand même pas mal de gens passionnants dans ce milieu-là et très généreux. Enfin, on partage ces valeurs-là de lecture, écriture. Mais en plus, ça me régénère. Je me nourris de toutes ces rencontres. Ça me donne des idées pour d'autres romans. C'est une capacité de caméléon, finalement, à rencontrer des gens très différents, avec des métiers différents. Non, moi, j'aime ça, j'ai besoin de ça. Je crois que je m'ennuierais si je devais rester tout seul dans ma maison. Ouais.
Alors, Benoît Sévérac, je ne vais pas vous dire combien de divisions, comme Staline, en parlant du pain, mais combien de livres ?
Je crois que j'en suis à 18 livres publiés, donc romans, on va dire. Il y a à peu près une dizaine ou quinzaine de nouvelles qui ont été publiées dans des recueils ou dans des revues. Oui, donc maintenant ça commence à faire, hein, effectivement.
Oui, oui, vous êtes imposé dans le paysage. Quand on dit Benoît Sévérac, vous n'êtes pas un inconnu.
Pas un inconnu, mais voilà, tout est très relatif. Hein,
Combien vous écrivez de livres par an ? Est-ce que ça a du sens d'ailleurs, cette question ?
Alors, elle doit en avoir, mais je ne me pose pas la question dans ces termes-là. C'est-à-dire que ça doit en avoir puisque j'en sors à peu près tous les ans. Et je pense que c'est effectivement ce dont j'ai besoin pour ne pas disparaître des radars. Mais ça correspond aussi à mon rythme d'écriture. Encore une fois, je ne m'impose pas d'écrire un roman par an. Il faut vraiment que j'ai quelque chose à dire. Alors, j'ai vraiment ce luxe-là de ne pas avoir à répondre à des commandes et à écrire ce que j'ai vraiment envie d'écrire, quand j'ai envie de l'écrire, et quand vraiment l'histoire est mûre. Et si le roman n'est pas prêt, si le roman... n'est pas abouti, tant pis, on recule la date prévue de parution et ça attendra. J'ai pas un éditeur qui me pousse, qui me colle à la roue de cette façon-là. D'abord parce que je ne suis pas un énorme vendeur. Si j'étais un best-seller, je pense qu'il y aurait des pressions autres. Il y aurait un attendu. Enfin, je sais pas comment fonctionnent les gens qui marchent vraiment.
Ben, ils fonctionnent comme ça, justement. Il faut qu'ils fassent
100 000 exemplaires.
Voilà, il faut faire un gros livre tous les ans. Ça veut dire que tous les ans, il faut s'arracher. Ça veut dire que tous les ans, il faut toujours aller plus loin que l'autre. Au moins maintenir le niveau. Ce qui implique une gymnastique qui n'est pas toujours réussie.
Alors, je ne connais pas ça. Je ne suis pas dans ce cas de figure.
Ouais. Heureux homme. Alors, vous disiez, il faut que j'ai quelque chose à dire. Ça veut dire que lorsque vous écrivez un roman, ça commence comment l'idée ? Ça vient comment ? Vous avez quelque chose véritablement à dire ? C'est quoi ? C'est un message ? Vous voulez vous exprimer sur un sujet particulier qui vous a frappé dans l'actualité. Vous ne l'inventez pas forcément. C'est ce que vous voyez autour de vous qui va être le déclencheur d'un roman.
Ouais, moi alors vraiment, je réfute le mot message parce que alors ça serait vraiment très très.
J'étais sûr que vous allez me dire
non,
ça.
Non, bien sûr, parce que je pense que ce serait mauvais si j'avais un message à passer, et surtout de quel droit et quelle prétention j'aurais passé des messages. Je serais pas du tout à ma place. Moi, je suis pas un intellectuel. Moi, je suis un raconteur d'histoire. Un conteur, finalement. Et donc, l'histoire me saute à la figure d'elle-même. En général, ça part d'une rencontre avec quelqu'un ou quelque chose qui va m'émouvoir, qui va m'énerver, qui va m'indigner. Et je vais sentir l'urgence, le besoin de vraiment raconter cette histoire-là à vous autres, lecteurs. Et là, ça s'impose. Tout de suite, ça saute à la figure. Et là, je me dis, oui, là, il y a un potentiel romanesque dont il faut que je fasse quelque chose. Ça, ce n'est que le début. Et ensuite, on va commencer à bâtir un personnage. Ça commence toujours par les personnages chez moi. Je peux passer des mois, voire des années. Il arrive que je passe un an ou deux. Alors, évidemment, pendant ce temps-là, je fais autre chose, évidemment. Mais pendant un an ou deux, je réfléchis à ce personnage et ce type à qui il est arrivé ça et qui pourrait en faire ceci ou cela.
On peut écrire plusieurs livres à la fois.
Pas dans le premier jet. Moi, je peux réfléchir à un projet littéraire tout en écrivant un roman que j'ai pensé auparavant, tout en corrigeant un troisième roman que j'ai déjà écrit et tout en me documentant pour un quatrième roman qui sortira dans 2 ou 3 ans ou 4 ans. Ça, oui, on arrive à avancer sur différents projets, mais à différents niveaux, à différentes étapes. Je n'arrive pas à écrire deux romans en même temps en premier jet.
On fait une pause musicale. C'est vous qui l'avez choisi. Alors, comme vous êtes un ancien professeur d'anglais, je ne vais pas me ridiculiser, je vous laisse annoncer le titre.
Oui, c'est la Divine Comédie, je vais le dire à la française, c'est Absent Friends, les amis absents.
Donc, c'est un groupe, c'est un groupe de pop britannique, c'est ça? Qui s'est sorti en 2004, ce
morceau. Oui, c'est pas tout récent, ouais.
Bon, et on parle de quoi on parle dedans, d'ailleurs? Est-ce que vous le savez, de quoi il parle? Il parle d'une chienne, l'ancien homme de l'école vétérinaire. Il parle de Laïka, là-dedans.
C'est toute
la... C'était la première chienne envoyée dans l'espace.
Oui, dont on a souvent dit, ça a été le premier être vivant dans l'espace. On n'a jamais trop imaginé sa fin, qui a dû être quand même assez dramatique.
Elle est revenue?
Et non, elle est toujours là-haut en orbite et puis elle a dû mourir dans d'atroces souffrances, quoi. J'imagine, soit d'un arrêt cardiaque à cause du stress, soit en suffoquant, j'imagine, par manque d'oxygène.
Bon, après, je crois qu'aussi on parle de Gene Siberg, on parle de Steve McQueen, d'Oscar Wilde aussi.
Oui.
Eux vont beaucoup mieux. Enfin, ils allaient beaucoup mieux à l'époque.
Alors c'est justement ce que j'aime dans ce groupe. Il y a beaucoup d'érudition, il y a beaucoup de nostalgie. Et il y a tout ça avec énormément d'élégance, donc très britannique, quoi.
Eh bien, écoutons-les.
Absent friends, here's to them, and happy days we thought that they would never end. Here's to absent friends. Little Jean Seberg seems so full of life, but in those eyes such troubled dreams. Poor little Jean. Woodbine Willie couldn't rest until he'd given every bloke a final smoke before the killing. Escape he tried to make was not to be. Maybe next time, Steve. Like a flu, through inky blue, to like a near the atmosphere. Oscar Wilde was a lonely child. He fought and won acceptance from the world. They smiled, they laughed, they praised, they drove poor Oscar to his grave.
Voilà, le groupe La Divine Comédie, le choix musical de mon invité, l'écrivain Benoît Sévérac. Alors Benoît, c'est vrai que vous nous avez dit tout à l'heure que vous écriviez pour les jeunes. Alors c'est quelque chose qui m'a toujours intrigué. Comment un homme d'âge mûr, hein, d'âge mûr, on arrive à écrire pour des ados. Alors je ne sais pas quelle est votre tranche d'âge pour des ados, disons, mais vous allez nous le préciser, pour des ados. Est-ce qu'on arrive à se mettre facilement dans ce qui les intéresse? Parce que moi, je vois bien, si je devais écrire un livre pour la jeunesse, j'écrirais un livre pour ce que fut ma jeunesse. Mais je pense que je mettrais à côté de la plaque.
Je sais pas. Je sais pas s'il y a une règle. Je crois que j'écris pas tellement pour les ados d'aujourd'hui, même si c'est eux, évidemment, qui sont visés et qui achètent mes bouquins. Mais j'écris plutôt à l'ado que j'ai été. Alors, oui. Certes, vous avez raison. C'était il y a longtemps. Mais, il y a les filtres de la culture se sont accumulés, donc c'est vrai que ce ne sont pas les mêmes ados aujourd'hui qu'il y a 40 ans, mais il y a quand même des ressorts intrinsèques à l'être humain et qui sont invariables, je pense, universels. Quand on est ado, on a un problème de découverte de son corps, de la sexualité, de son rapport au groupe, beaucoup, du rapport à l'autorité, qu'elle soit parentale ou à l'école, enfin tout ça, ça n'a pas vraiment changé. Les ressorts être amoureux, séduire, se convaincre qu'on n'est pas minable, essayer de la confiance en soi, tout ça, c'est des problèmes universels, ça n'a pas tellement changé.
Les ressorts n'ont pas changé, mais les méthodes, oui, quand même. Hein,
c'est oui, mais ça, c'est pas très compliqué. Si vous voulez, quand je me documente sur le milieu de la prostitution à Toulouse, ou le milieu du trafic de drogue à Toulouse, ou que sais-je, sur une ville comme Washington ou Versailles, j'ai pas plus de facilité à rentrer dans la peau d'une prostituée albanaise que dans la peau d'un ado. J'ai été ado alors que j'ai jamais été prostitué ni albanais, quoi.
Ouais, et ça peut venir. Hein. Tout est possible. Oui, ça peut venir, mais ne désespérez
mais
pas.
C'est,
hein.
C'est pas. Alors ça s'appelle plus des souvenirs. Ça s'appelle des expériences. Mais non, je veux dire par là que c'est le propre de l'écrivain, je pense, d'arriver à se mettre en empathie. Par empathie, à se mettre dans la peau d'un personnage et d'être crédible. Je pense que je peux me tromper, mais à partir du moment où on ne prend pas les ados pour des idiots, je pense que, et qu'on les observe un tout petit peu, je pense qu'on peut servir de grand frère, en fait, et donner des clés de réflexion sur le monde qu'ils ont sous leurs yeux.
L'édition, on parlait tout à l'heure de l'éditeur, vous avez plusieurs éditeurs. Quels sont vos rapports avec eux? Est-ce que c'est un éditeur qui est un véritable éditeur? Ou est-ce que c'est un prestataire de service?
Ouais, alors moi j'ai de la chance, parce que quelles que soient les maisons d'édition, même celles par lesquelles je suis passé auparavant, j'ai toujours eu des très très bons rapports avec mes éditeurs.
Ça veut dire que c'est un éditeur qui fait vraiment le job, autrement dit, il aime les mots, il aime ses auteurs, il va travailler à côté de lui, il va l'encourager, il va le freiner, il va lui dire non, là, c'est pas très bon, c'est trop long, c'est ceci, cela, où il faut développer. Donc, il va véritablement rentrer dans votre texte.
Ouais, l'éditeur, pour moi, alors, ne doit pas être trop interventionniste, mais en même temps, moi, j'attends de lui qu'il le soit un petit peu quand même. Et notamment, un bon éditeur, c'est quelqu'un qui comprend mieux que vous ce que vous avez voulu faire. Et qui va pas vous demander, qui va pas écrire les choses à votre place. Ça, c'est très important. Il va vous laisser souverain de votre travail. Mais il va pas vous demander d'orienter votre travail, les améliorations, par exemple, les pistes d'amélioration, vers quelque chose qui ne vous ressemble pas ou vers quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Parce que ce n'est pas vous. Pour moi, un bon éditeur, c'est comme un coach sportif. C'est quelqu'un qui va vous regarder courir. Il est peut-être vieux lui-même, il peut pas courir à votre place, mais il va vous regarder courir et il va comprendre comment vous pouvez courir mieux, plus vite, gagner un centième là. Alors, vous pouvez très bien vous passer de ses conseils, mais quand vous savez que lui-même a déjà entraîné des champions avant vous et qu'il a la bista, ben, vous allez lui faire confiance. Et en général, à 99% des recommandations qui me sont faites, l'éditeur a raison. Moi, je pars du principe qu'il a raison. Alors ça m'empêche pas d'avoir mon libre arbitre et mon esprit critique et d'analyser ce qu'il est en train de me dire et de voir comment je peux... d'ailleurs souvent je dois réfléchir à ce qu'il a vraiment voulu dire pour apporter une réponse. Mais jusqu'à maintenant, j'ai toujours eu de très bons rapports et à chaque fois ça a été pour le...
Des rapports constructifs donc.
Constructifs et puis le texte en est sorti meilleur. Je vois tous les bénéfices d'un éditeur. En tout cas, à mon niveau, ça a toujours été très très bénéfique. Je n'en serais pas là, je n'aurais pas autant appris sur ma propre écriture sans les éditeurs que j'ai rencontrés.
On peut les citer peut-être?
Ah, bien sûr. Alors on va citer mon éditeur en littérature adulte, qui est vraiment mon éditeur attitré, qui s'appelle Pierre Fourniaud, qui a quand même été éditeur de l'année 2023 à la Manufacture de Livres. J'ai des merveilleuses éditrices chez Syros aussi. Syros, c'est ma maison d'édition ado. Là, il y a Stéphanie Hoyos-Gomez. C'est surtout elle qui fait tout le travail d'editing avec moi. Et Sandrine Mini, qui sont les deux chevilles ouvrières de la maison d'édition. Mais après, je vais en oublier parce qu'il y a aussi toutes les éditrices que j'ai rencontrées chez Pocket, chez 10-18. Enfin, quand les droits sont rachetés et passent en petit format, enfin en format de poche, il y a également un retravail à ce moment-là d'editing. Mais le gros, quand même, et mes contacts privilégiés sont ceux-là. Stéphanie Hoyos-Gomez en ado et Pierre Fourniau en adulte. Mais ma toute première éditrice, je voudrais faire un petit clin d'œil parce qu'elle est toulousaine et c'était la maison d'édition TME qui était elle-même qui publiait pour la première fois un roman, parce que c'était une maison qui était plutôt spécialisée dans le beau livre de patrimoine régional. Et moi, c'était mon premier roman aussi, on a démarré ensemble en quelque sorte. C'était Sandrine Banossi aux éditions TME, qui est une figure de la vie culturelle toulousaine, qui m'a beaucoup appris aussi sur mon travail. Mais il faut accepter aussi la critique. Il y a des auteurs qui ont du mal un peu avec ça, mais ça, c'est chacun sa sensibilité. Il y a des auteurs qui acceptent absolument pas qu'on leur fasse des remarques d'ordre stylistique ou je sais pas ou technique sur le texte.
Il y en a qui ont une mentalité de diva et qui manque d'humilité.
Non,
peut-être.
je dis pas ça. Chacun. Moi, je suis quelqu'un qui manque terriblement de confiance en soi. J'ai besoin d'être tenu par la main, d'être guidé. Je déteste qu'on fasse les choses à ma place, donc je suis assez sensible à l'idée de rester indépendant, mais j'ai vraiment besoin d'être rassuré. Donc je pense qu'il y a des auteurs qui ont plus confiance en eux, et tant mieux pour eux. Non, je dis pas que ce sont des divas.
Comme vous sortez beaucoup, vous voyez vos lecteurs.
Oui.
C'est qui vos lecteurs ? C'est quel âge ? Alors, ne parlons pas de la jeunesse, hein, vous l'avez évoqué tout à l'heure, parlons du public et des livres adultes. Ce sont plutôt des hommes, des femmes, de quel âge ?
C'est plutôt de féminin et plutôt 50 ans et au-dessus.
Donc, comme TF1, donc c'est la ménagère de plus de 50 ans, c'est ça ?
Je vous laisse vos remarques désobligeantes.
Oh, c'est eux qui l'ont dit, hein, c'est pas moi, je ne regarde pas TF1 de toute façon.
Non, mais c'est vrai que le public de lecteurs est plutôt âgé, on va dire, entre guillemets. Mais,
oui, quand même pas tant que ça.
Je pense que c'est une sociologie du lecteur assez généralisée. C'est pas que mon lectorat.
Ça veut dire que les jeunes sont plutôt devant les écrans ?
Non, je sais pas.
C'est une concurrence, les écrans, c'est une menace pour le livre.
Oui, mais pas que les jeunes. C'est-à-dire que les adultes qui disent cela passent beaucoup de temps sur leur téléphone portable aussi. Et oui, c'est une concurrence parce que c'est un rapport au temps qui est très très différent. La lecture implique qu'on se sorte un petit peu du buzz, comme on dit, ou de l'espèce de précipitation généralisée qu'il y a autour de nous, et qu'on s'extraye de ça, et qu'on rentre dans une espèce de bulle spatio-temporelle, littéralement, et qu'on prenne le temps. Et ça, c'est quasiment contraire aux injonctions que nous envoient en permanence ces petits appareils-là, et dont je suis le premier victime. Hein, et moi, il faut
nous
que je me force.
Nous sommes tous des victimes. Oui,
il faut que je me force, quand je veux écrire ou quand je veux lire, il faut que je me force à couper mon téléphone, à vraiment l'éteindre. Mais c'est une discipline qui m'est rendue possible parce que j'ai un centre d'intérêt pour la lecture et l'écriture, mais aussi parce que je suis né dans une période où on avait d'autres codes. Donc, je suis très inquiet, oui, je pense, pour l'avenir des gens qui n'ont pas d'autres références que ça.
Il y a un excellent livre que je cite souvent de Gérald Bronner, qui est un sociologue français, un universitaire, très abordable dans la lecture. Je l'ai lu, donc tout le monde peut le lire. Ça s'appelle Apocalypse cognitive. Et franchement, si vous ne l'avez pas lu, il faut absolument le lire. Et là, on comprend quelle est l'étendue du problème et même peut-être un peu la catastrophe vers laquelle on court joyeusement. Donc, vos lecteurs, ce sont plutôt des dames d'un certain âge. Est-ce que toutes vos histoires leur plaisent ? Est-ce que parfois, il y en a qui viennent vous voir en disant « mais j'ai rien compris » ou « c'est pas du tout ça » ou « je me suis ennuyé dans votre livre » Est-ce que ça arrive ?
Alors, ça arrive, mais très rarement, parce que les gens sont plutôt bienveillants. Et quand ils n'ont pas aimé, ils ne vous le signifient pas.
Pas directement.
Ou pas directement. On décode certains, on lit entre les lignes. Je vois passer des commentaires. Alors, ce ne sont pas des messages qui me sont adressés. Donc, je pense que les gens se lâchent un peu plus quand ils font des commentaires sur les blogs ou sur Instagram, sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. Et ce que je lis ne me chagrine pas parce que ça leur appartient. Moi, mon bouquin, je l'aime. Je sais ce qu'il vaut. Si je n'avais pas cette prétention, je publierais rien, j'enverrais rien à mon éditeur, parce qu'il faut être très présomptueux pour penser que ce que vous avez écrit peut intéresser quelqu'un. À partir du moment où vous envoyez votre manuscrit, c'est que vous avez cette prétention.
Ah bon, on a toujours l'ego un peu quand
bien
même.
Sûr, hein, mais sans ego,
on n'avance pas. Oui.
On ne peut pas écrire. Mm-hmm. Il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas sans ego. Mais en tout cas, écrire, s'exposer en public comme ça, parce que là, on se met à nu. Et oui, il faut avoir énormément de prétention. Donc j'ai cette prétention-là. Et après, je sais très bien que je ne peux pas plaire à tout le monde, mais surtout, je sais très bien que ça dépend vraiment de la sensibilité du lecteur, de ce lecteur en particulier, mais à ce moment-là aussi en particulier. Le sait, ça.
Est-ce que ces commentaires que vous lisez, ça va vous influencer en disant, bon, le goût des gens, on les porte plutôt vers telle chose, je vais donc écrire sur telle chose. C'est un peu comme le vin, finalement, aujourd'hui, il y en a qui fabriquent du vin en fonction du goût des consommateurs. Est-ce que vous auriez la même démarche avec un livre?
Alors, Alors, philosophiquement, je m'interdis ça. Mais même si j'avais des tentations de le faire, j'ai assez d'orgueil pour m'inscrire en faux ou en tout cas même m'interdire cela. Parce que et en plus, je pense qu'on n'est pas bon. On ne peut pas écrire tout un roman en écrivant un roman en pensant aux gens et à la tendance, et s'il va plaire ou pas. On peut commencer un roman comme ça, mais je ne sais pas si on arrive au bout, parce que si on n'est pas soi, je ne vois pas comment on peut finir un roman et écrire un bon roman. Je pourrais écrire des choses un peu plus thriller, un peu plus fantastique, parce que c'est ça qui marche. Et j'ai jamais pu me résoudre à ça parce que je ne serais pas bon. Je ne saurais pas faire ça. Je dis pas que c'est un mauvais style, enfin, il y a des gens qui le font très bien. Moi, je n'y arriverai pas. Donc, je vais pas m'essayer.
Donc, vous n'êtes pas un écrivain commercial.
J'espère pas, non. Oui, j'espère avoir un univers qui est le mien, une sensibilité qui est la mienne, et c'est ça être un créateur, quoi. Enfin, je pense.
Le tableau du peintre juif, c'est le dernier?
Oui.
Allez, je lis quelques lignes du tableau du peintre juif. Alors, c'est une histoire très, très particulière. Hein, on remonte au temps de la guerre, on remonte au temps où les juifs étaient persécutés. Alors, je ne sais pas si on remonte au temps, compte tenu de l'actualité, je ne sais pas si on n'est pas un peu dedans, mais peu importe. C'est le début du chapitre 27, choisi au hasard. Toutes les conditions étaient réunies pour que je passe l'une des plus mauvaises nuits de ma vie. Odeur de cigarettes froides incrustées dans les draps et l'été d'oreiller. Allée et venue incessante dans les couloirs qui me laissant penser que le Formule 1 est en fait un hôtel de passe. Circulation infernale à l'extérieur, tous les jeunes de cité se sont donné rendez-vous dans la rue pour faire des runs. C'est comme ça qu'il faut prononcer, hein. J'ai dû fermer la fenêtre, mais la climatisation a hésité toute la nuit entre tomber définitivement en panne et agoniser bruyamment. Pourtant, grâce à l'assemblage Gaillac-Fronton, on est toujours dans le vin, je me réveille reposé à 8 heures, j'ai tout juste le temps de faire mes ablutions, rapides parce que les douches sur le palier sont dans un état minable après une nuit débat tarifé, d'avaler un petit déjeuner sous cellophane et un café pris dans la machine dans l'entrée qui ne valait guère plus que les 30 centimes qu'il m'a coûté et de sauter dans l'Uber qui m'attendait. Le directeur du musée de la Résistance ne m'a pas oublié. Lorsque je sonne à l'interphone, il m'ouvre tout de suite et me fait passer par la porte de service à l'arrière de la bâtisse. Les Toulousains auront peut-être reconnu, c'est pas un livre qui se passe spécialement en Toulouse, mais il y a un chapitre ou deux chapitres qui se passent dans notre bonne ville, notamment au musée de la Résistance, qui n'est pas si loin qu'ici. C'est né de quoi, cette histoire de recherche, de course après un tableau? Et après, le peintre, justement, qui l'a peint, qui était juif et qui a malheureusement fui devant les nazis.
Ça, c'est vraiment l'histoire qui s'impose d'elle-même et qui est du pain béni pour un écrivain. En 2018, j'hérite d'un tableau.
Il y a du vrai, alors.
Là, le point de départ du roman est entièrement vrai. Tout le reste est complètement inventé, mais cette idée de peintre juif et de tableau m'est tombée dessus. J'hérite de ce tableau. Tout le monde ignorait son existence dans ma famille. Et j'apprends que c'est le tableau du peintre juif. Texto. Et là, je me dis tout de suite, ça ferait un super titre. On m'apprend que un peintre juif a été caché pendant la guerre dans le grenier de mes grands-parents et que pour les remercier, il leur a offert ce tableau. Et je me suis tout de suite dit, s'il faut... Donc je vais voir ce tableau, j'en hérite donc de mon oncle et ma tante, il est de belles factures... une aquarelle, une drôme provençale, un peu à la Cézanne, et je m'enquiers de sa valeur, en me disant peut-être que je suis tombé sur un tableau de maître, parce que...
C'est arrivé dans la région.
Oui, c'est ça. Bon, là, en l'occurrence, Willy Eisenschitz, l'auteur du tableau, que je ne connaissais absolument pas, il s'avère qu'il est très connu de l'entre-deux-guerres, médaille d'or de l'Expo universelle en 1937 à Paris, acheté par l'État français à plusieurs reprises, un musée lui est dédié en Autriche, enfin, là, je me dis, s'il faut, j'ai hérité d'un tableau qui a une valeur vénale qui va changer ma vie. Or, pas du tout. Il est coté, il vaut 2-3 000 euros, mais pas de quoi changer ma vie. Mais ce réflexe vénal peu avouable que j'ai eu, je me suis dit, exploite ça, cette idée-là, et imagine que le tableau vaille 100 000 ou 200 000 euros, et imagine que le héros ne soit pas toi, mais quelqu'un qui traverse une mauvaise passe.
C'est un peu un loser, votre héros. Ouais,
j'aime pas trop l'expression loser, mais oui, c'est quelqu'un qu'on a envie un peu de secouer.
Pour faire le beau vis-à-vis d'un prof d'anglais, mais...
Ouais. non, mais c'est dur, loser, mais non, il ressemble à beaucoup d'hommes dans la cinquantaine autour de nous, c'est-à-dire quelqu'un qui se pose des questions, qui veut donner un sens à sa vie, qui a pas forcément les bonnes réponses aux questions qui se posent et qui se met en tête de faire valoir le statut de juste parmi les nations à ses grands-parents pour essayer de s'approprier un peu de leur gloire et son épouse va réagir un peu comme moi j'ai réagi de façon plus vénale ou en tout cas plus pragmatique, on va dire. Elle va dire, mais non, on vend ce tableau, on se refait une santé, on rebondit et on passe à autre chose dans notre vie. Et voilà, on met un élément disrupteur dans un couple et c'était parti.
Et c'est bien parti. Donc, le tableau du peintre juif de Benoît Sévrac, je ne vous donnerai pas toute la liste. J'en ai encore un à lire de vous qui se passe... alors là, c'est un roman historique qui se passe à Rome, je crois.
Qui se passe à Saint-Bertrand-de-Comminges à l'époque où c'était une cité gallo-romaine.
Cité gallo-romaine, donc ça veut dire aussi que vous partez dans l'histoire.
C'était mes débuts, ça, et je crois qu'il y avait donc c'était mon tout premier Les Chevelus qui a paru chez TME, donc édition en 2007, et qui a eu une belle carrière. Il a été traduit aux États-Unis, enfin, ce qui me paraissait normal à l'époque, et aujourd'hui je mesure à quel point j'ai eu de la chance.
Tout à fait.
Et il a eu plusieurs prix, dont celui de la ville de Toulouse. Et je pense que j'avais adopté l'histoire par pudeur. Je pense que je n'osais pas encore me frotter à ce que nous sommes aujourd'hui et qu'en mettant la distance de l'histoire, ça me permettait de me cacher un petit peu quoi, derrière tout ça. Mais ça veut dire beaucoup de documentation, c'est énormément de boulot.
Alors Benoît, c'est vrai qu'il n'y a pas que le livre, il y a aussi un peu l'audiovisuel et puis le spectacle. L'audiovisuel, je crois que c'est un peu plus ancien, et le spectacle, mais l'audiovisuel, qu'est-ce que vous êtes allé faire dans ce domaine-là?
Ah oui, alors j'ai
incursion.
Ouais, c'était une incursion, mais je n'ai pas renoncé à l'audiovisuel. C'est un langage très différent et qui m'intéresse évidemment beaucoup, comme beaucoup d'écrivains. Alors j'ai fait plusieurs incursions. Il y a eu d'abord cette série de trois documentaires des 52 minutes, coproduits par France 3. National et l'INA, sur, ça s'appelait Territoire Polar, c'était sur les auteurs en région. Donc je jouais mon propre rôle dans ces trois documentaires. On me suivait en train d'interviewer des auteurs en région. Donc ça, il y avait Midi-Pyrénées, Normandie et Corse. Ça a été une belle expérience. Ça m'a permis aussi de me frotter à l'écriture de la voix off du documentaire. Ensuite, il m'est arrivé de travailler comme co-scénariste sur un court-métrage avec Xavier Francomme, qui est un auteur de films des courts-métrages, ça s'appelait Caravane. Et puis, enfin...
Chanson de mon temps, non?
Pardon?
Chanson de mon temps, Caravane, non? Il me semble, je ne sais pas, peut-être je dis une bêtise, non?
Je ne sais plus.
Il me semble, oui.
Et
pardon, je vous ai interrompu.
Je sais plus. En fait, je réfléchis. C'est une chanson de mon temps.
Il me semble que j'ai entendu mon temps chanter quelque chose comme ça.
Non, je ne l'ai plus en tête. Et puis, en tout cas, ça n'avait rien à voir. Là. La bande-son était plutôt assurée par Bruce Springsteen.
Pareil.
Et puis j'ai écrit aussi, j'ai déjà fait ce qu'on appelle le traitement pour un roman, c'est-à-dire pas le mien, mais le traitement de quelqu'un. J'en ai fait le traitement pour qu'il soit adaptable en scénario. En fait, c'est l'étape avant le scénario. Donc ce sont des choses qui m'intéressent, ouais, j'y reviendrai peut-être si les rencontres se font, si je suis invité à faire ça. Mais il y a le spectacle, par contre, le spectacle vivant, les lectures, ce qu'on appelle les lectures musicales, c'est quelque chose que je fais de plus en plus.
Alors c'est le fameux spectacle que j'évoquais tout à l'heure, Et vous allez vous produire d'ailleurs bientôt à Toulouse, 14, je le rappelle, mais on le redira à l'antenne, 14 janvier, Utopia Tournefeuille, en matinée.
À 11h, oui.
À 11h, pour ceux qui ne vont pas à la messe, comme on disait tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est, ce spectacle ?
Oui, alors, il y en a plusieurs. On fait assez, ce sont des lectures musicales qui durent entre 50 et 60 minutes, assurées par Jean-Paul Raffitte à la guitare électrique et à la composition, et moi-même, je lis mes propres textes. Il y a trois spectacles qui tournent. Il y a deux nouvelles que je lis in extenso, dont celle que je lirai à l'Utopia Tournefeuille le 14 janvier, qui s'appelle Ondes algériennes, qui est une fiction sur la guerre d'Algérie que j'ai écrite pour exorciser un petit peu ce fardeau, pour déposer le fardeau de la guerre d'Algérie que mon père a faite et qu'il n'avait jamais réussi à exprimer. Enfin, c'est une douleur qui était en lui, qu'il n'a jamais réussi à exprimer, que j'ai donc endossé. Et sinon, le tableau du peintre juif lui-même est une adaptation du roman que nous proposons régulièrement. On en fait deux ou trois par mois à peu près. On était à Villeneuve-les-Avignon la semaine dernière. On était à Châteauroux récemment. Enfin, on tourne un petit peu partout, et ce sont des spectacles qui me permettent de porter physiquement sur scène mes textes. C'est vraiment une dimension complètement nouvelle pour moi. J'ai fait beaucoup de théâtre et je renoue un peu avec ce plaisir de la scène, mais autour de mes textes. Et la collaboration avec Jean-Paul Raffitte, qui est un musicien hors pair, c'est un musicien professionnel dont la raison d'être est de porter les projets des autres. Il se met vraiment toujours à disposition d'un projet, qu'il soit littéraire ou autre, hein, des autres. Donc il travaille beaucoup avec Olivier de Robert, le conteur, et il fait beaucoup de ciné-concerts sur Méliès. C'est un spectacle envoûtant parce que la musique apporte une dimension complètement nouvelle à mes textes et potentialise mes textes, je trouve. Et ça englobe les gens, ça les embarque, et vraiment le public est fan de ce genre de moment.
Eh bien écoutez, on dira vous écouter. Monsieur William, vous connaissez Monsieur William ?
Oui.
Hein, Léo Ferré.
Léo Ferré, oui.
Jean-Roger Cossimon, c'est pas nouveau, ça date de 1950, mais quand c'est chanté par Sappho, c'est un peu revisité. On l'écoute.
Très bien.
C'était vraiment un employé modèle. Monsieur William, toujours exact et toujours plein de zèle, Monsieur William. Il arriva jusqu'à la quarantaine sans fredaine, sans le moindre petit drame, mais un beau soir du mois d'août, il faisait si bon, il faisait si doux. Monsieur William s'en alla, flâner droit devant lui au hasard, et voilà. Monsieur William, vous manquez de tenue. Qu'alliez-vous faire dans la 13e avenue? Il rencontra une fille bien jeunette, Monsieur William. Paya un bouquet de violettes, Monsieur William. Il l'entraîna à l'hôtel de la pègre, mais un nègre a voulu prendre la femme, Monsieur William, hors de lui, lui a donné des coups de parapluie. Mais le nègre dans le noir lui a coupé le cou en deux coups de rasoir. Schlick, schlack, Monsieur William, vous manquez de tenue, mon vieux. Qu'alliez-vous faire dans la 13e avenue? Il a senti que c'est irrémédiable, Monsieur William. Il entendit déjà crier le diable, Monsieur William. Aux alentours, il n'y avait personne qu'un trombone, chantant la peine des âmes, un aveugle enchaîné. le savoir a marché dans le sang. Puis dans la nuit a disparu. C'était peut-être le destin qui marchait dans les rues. Monsieur William, vous manquez de tenue. Ça c'est sûr. Vous êtes mort dans la 13e avenue.
Voilà, Monsieur William, par Sapho, Léo Ferré, Jean-Roger Caussimon. Et nous retrouvons Benoît Sévérac, notre auteur et notre écrivain, et puis aussi maintenant devenu, comme il nous le disait à l'instant, homme de spectacle.
Oui, en quelque sorte.
Alors, dernière partie de l'émission, des questions indiscrètes que je pose à mes invités. Bon, les activités sociales, je vous avais posé la question, mais il dit je suis plutôt dans les bars, les médiathèques, les librairies, les salons littéraires, ce qui est une activité éminemment sociale.
Oui, oui, j'en ai peu d'autres en fait.
Bah, c'est déjà pas mal parce que on doit avoir des journées bien remplies entre
oui.
L'écriture enfermée chez soi et après un peu la représentation, le SAV peut-être un peu aussi.
Oui, puis non, mais ce sont des tas de rencontres très riches, quoi, très très riches, et je bénis ce métier qui m'a donné la possibilité d'aller vers des gens que je n'aurais jamais rencontrés autrement. Et il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent aussi quand on dit qu'on est écrivain. Beaucoup de gens sont disposés à vous recevoir, à témoigner. Je crois qu'il y a un gros désir de transmettre quelque chose et de vous utiliser comme moyen de transmission, en sachant que peut-être leur vécu va être dissimulé par la fiction, par le filtre de la fiction. Ils vont peut-être pas apparaître de façon trop exposée, alors que si on dit qu'on est journaliste, peut-être que c'est le rapport au réel est différent et le rapport aux sources aussi est différent, je sais pas. Mais en tout cas, moi, je m'aperçois que beaucoup de gens me font des confidences, peut-être parce qu'un écrivain sait aussi écouter, et donc on sait provoquer la parole. Allez savoir.
Oui, allez savoir. Vous avez le temps, puisque vous ne faites pas de sport, au moins, ça ne vous mange pas de temps. Vous avez dit no sport.
Hein. Oui, c'est churchillien comme réponse. Ouais. Non, je fais pas de sport, mais j'aime beaucoup le sport. Je n'ai rien contre les gens qui font du sport. J'aimerais pouvoir faire du sport. Et non, je suis un ancien judoka un peu cassé de partout, parce que le judo poussé à haute dose est très traumatisant, donc je crois que c'est un peu comme le rugby, on vieillit mal.
Alors voilà. Justement, puisque vous parlez de judo, et c'est une question que je voudrais poser, mais vous me devancez Michel Goupillot. Qui était Michel Goupillot
c'était
dans
mon,
votre vie?
Oui, alors vous me demandiez si j'avais des mentors, c'est ça?
Oui, un peu.
Michel Goupillot, c'est un monsieur qui est décédé aujourd'hui, qui était mon professeur de judo quand j'avais 16 ans. Un moment où j'étais à la dérive en termes de tout, un peu borderline sur pas mal de choses, pratiques à risque, on va dire, perte de repères, rupture avec mes parents, rupture avec le milieu scolaire. Et le judo m'a sauvé, littéralement, parce que le judo exige de respecter certaines valeurs, de respecter certains rites, certains espaces aussi, et certaines personnes qui sont vos adversaires ou votre maître. Et Michel Goupillot a joué ce rôle de mentor dont on a besoin à un moment donné, je pense, peut-être pas tous, mais je pense que c'est bien pour un ado d'avoir un mentor adulte qui soit différent de vos référents paternels ou parentaux, quoi, on va dire. Et il a joué ce rôle-là. Peut-être ne l'a-t-il pas su, j'en sais rien. Mais il m'a fait confiance à une époque où moi-même, je n'avais pas confiance en moi. Et il m'a donné des lignes de conduite que j'ai suivies et qui m'ont amené à ce que je suis aujourd'hui, je pense. Je dois beaucoup au judo. Hein, je dois beaucoup d'arthrose au judo, mais je dois également beaucoup de valeur. Hein.
L'un ne va pas sans l'autre, souvent. Une œuvre d'art qui vous a marqué, un film, une sculpture, une peinture, à part celle du peintre juif.
Oui, alors non, celle-ci m'a marqué pour des raisons littéraires et humaines, personnelles. Mais non, je me souviens du choc que j'ai ressenti à la découverte de Soutine. Je crois que c'était à Martigny, en Suisse. Et il y a un musée d'art contemporain ou d'art moderne là-bas. Et il y avait ce tableau de Soutine qui sont les arbres penchés. Et je suis resté scotché, littéralement, pendant, je ne sais pas, un temps peut-être une demi-heure ou trois quarts d'heure, je ne pouvais plus me décoller de ce tableau et j'ai été happé par ce tableau. Il y avait un phénomène physique et je sais pas, ça correspondait, ça ressemblait à tout ce que j'aimais dans la littérature, dans la musique, ce côté... c'est difficile à expliquer, vertigineux et noir, tourmenté et calme à la fois. Il y avait tout ça, un peu comme certaines œuvres de l'expressionnisme allemand ou de la littérature allemande de l'entre-deux-guerres. Ouais, ça a été un choc émotionnel et artistique. Depuis, Soutine est resté pas très loin de mes centres d'intérêt. Et je me rends compte souvent aussi que Soutine fréquentait des gens que je fréquente à travers mes lectures aussi. Enfin, il n'y a pas de hasard.
Il y a un moment particulier ou une journée qui a pour vous été marquante ou qui a constitué un tournant dans votre vie ?
Ça c'est très compliqué de rembobiner 57 ans d'existence et se dire à quel moment. Oh, il y en a plein, fondatrices j'imagine, mais honnêtement le moment où ça fait deux fois que j'en parle, mais le moment où j'étais invité sur le plateau de la Grande Librairie pour moi a été un moment de bliss. Je pense qu'on peut utiliser ce terme peut-être en français aussi, mais d'espèce d'extase et de bonheur extatique. J'étais dans un état second. Je ne suis pas du tout un usager de stupéfiants quelconque, mais là j'étais comme sous effet d'une drogue, tellement j'étais décontracté.
Ça vous a pas du tout impressionné?
J'ai passé une semaine d'insomnie totale. Je dormais une heure par nuit. Je n'arrivais pas à me défaire de ce moment qu'il fallait préparer. Donc ma maison d'édition me préparait aussi avec des espèces d'interrogatoires à distance par téléphone. Ça, je me mettais une pression de dingue jusqu'au moment où je suis monté dans l'avion et où il faisait beau. Je me suis dit bon, c'est ce soir le grand soir. Et là, je me suis dit écoute. Profite, c'est peut-être le plus beau jour de ta vie, parce qu'en tant qu'écrivain, c'était une espèce de consécration. Profite, il fait beau, prends du plaisir, sois toi-même. Mon éditeur m'avait dit, ne cherche pas à être brillant, tu n'y arriveras pas. J'avais trouvé ça très... c'était très bien vu, parce qu'il m'a dit, en gros, essaye d'être juste toi-même, d'être sympa, et c'est ce qu'on te demande, c'est de bien passer à l'antenne, c'est pas de faire des grandes théories de littérature. Et ça m'a complètement libéré, ce moment où je suis monté dans l'avion en me disant « profite ». Et j'ai passé une journée fantastique et une soirée sur un petit nuage, à tel point que pendant l'émission, qui était du direct réel à l'époque, je pense qu'aujourd'hui c'est enregistré, mais à ce moment-là c'était en direct, je devais presque me pincer pour me dire « essaie de... » Parce que j'écoutais les autres avec un bonheur total, naïf, et je me disais « non mais réveille-toi, parce qu'il faut que tu sois sur le coup, parce que ça va bientôt être à toi de parler ». T'es quand même en direct, t'es pas juste dans le public, quoi. C'était vraiment un très très bon moment, ouais. Et je pense que ça a tellement changé de choses dans ma carrière d'écrivain que je le mettrai en journée particulière, ouais.
Allez, on finit en parlant de livres. Bon, vous allez me dire, on n'a fait que parler de livres depuis le début de cette émission, mais là on va parler des livres des autres et pas uniquement de Benoît Sévrac. Je demande toujours à mes invités, conseillez-nous un titre. Et vous m'avez dit « La neige de l'amiral » d'Alvaro Mutis ou Mutis, je ne sais pas comment il faut dire, Mutis je pense. Colombia.
Oui, c'est alors la littérature sud-américaine est foisonnante. Alvaro Mutis, je l'ai découvert récemment, on va dire il y a quelques années maintenant, il y a une dizaine d'années, pas plus. Et c'est très compliqué de parler de ce roman qui est une espèce d'avancée hypnotique. Comme dans un rêve où c'est poisseux, ça suit le cours d'un fleuve. J'ai l'impression d'être dans Aguirre. Vous voyez ce film?
Oui, tout à fait.
Avec Kinski. Enfin, c'est moite. Ce sont des temps de réflexion sur soi, c'est la nature humaine à nu. Il n'y a plus de triche et c'est onirique. C'est de la littérature incroyable. Aujourd'hui, c'est de la littérature contemporaine et je pense qu'en Europe, je ne vois pas l'équivalent de ce genre de littérature. En Amérique du Sud, il y a vraiment des auteurs qui sont des auteurs cathédrales et ce roman en fait partie. Alvaro Mutis, c'est quelqu'un de... Je ne sais pas s'il est décédé aujourd'hui ou s'il est toujours vivant. J'ignore sa biographie exacte, mais c'est de toute beauté et c'est très peu connu. J'invite vraiment les gens à découvrir cette espèce de rêverie sombre pour les gens qui aiment le roman noir, et ils vont s'y retrouver et en même temps c'est traversé par des tas de sentiments qui sont universels, tout le monde peut se retrouver là-dedans et c'est d'une grande beauté et d'une grande tristesse à la fois aussi, enfin, c'est de la littérature que j'adore.
Alors Alvaro Mutis, ça s'appelle La Neige de l'Amiral, c'est pas tout jeune, ça a été publié en janvier 89. Ah, aux oui. éditions Sylvie Messinger, et ça a eu le prix étranger, cette même année, le prix Médicis étranger.
Voilà, donc en fait, je ne fais qu'enfoncer une porte ouverte.
Mais vous l'avez tellement bien enfoncé. Et moi, je vous ai choisi un autre titre qui est tout à fait beaucoup plus mystérieux. C'est pas poisseux, c'est mystérieux. Ça s'appelle La Maison des Livres. Ça a été écrit par Enis Batur chez Zulma. Alors, Enis Batur, c'est un Turc, qui est une figure majeure de la littérature turque. Il a été poète, essayiste, romancier, il a été éditeur aussi, il a édité beaucoup, beaucoup de livres. Et là, c'est un écrivain, c'est l'histoire d'un écrivain qui revient de voyage et qui se voit proposer un héritage en revenant dans sa Turquie, sur les hauteurs de Dragos, qui est un quartier d'Istanbul qui surplombe le Bosphore, très, très verdoyant. Eh bien, on lui a légué une maison aux livres, c'est-à-dire une bibliothèque de plus de 30 000 ouvrages qui sont rassemblés dans un écrin de verre au cœur d'un vaste parc. Puis à l'écart, il y a un petit cabanon qui invite à la lecture, à la contemplation. Et cette énigmatique bibliothèque, parce qu'il ne sait pas d'où ça vient, il ne sait pas pourquoi on l'a lui allégué, va bientôt tourner à l'obsession. Alors il y a un classement très ingénieux dans des rayonnages innombrables, des notes manuscrites, autant d'indices pour éventuellement percer un mystère. Et on se demande quel est l'architecte génial de ce qui est un fabuleux trésor. Voilà, c'est une ode à la lecture, hein, dans la lignée de Borges, d'Umberto Eco. Quand on aime les livres, je crois qu'on aimera la Maison des Livres. Voilà, nous sommes arrivés au bout de notre aventure, Benoît Sévrac, notre aventure radiophonique. Je rappelle votre dernier titre, Le tableau du peintre juif chez 10-18. Et puis je rappelle que si on veut entendre aussi ce texte, mais cette fois-ci en musique et dit par vous, ce sera le 14 juillet à Utopia. Non, le 14 juillet, pardon. Non. 14 janvier. Janvier, pas juillet, 14 janvier à Tournefeuille à 11h du matin. Donc vous aurez juste le temps de sortir de la messe pour vous précipiter, entendre Benoît Sévrac. Merci d'avoir passé cette heure avec moi.
Merci à vous.
Eh bien voilà, c'était Cap. J'attendais que notre indicatif démarre. Une émission de Jacques Lavergne à la technique et au bouton Léo Touroult que je remercie. Puis vous pourrez retrouver le podcast de cette émission avec tous ses petits camarades sur le site de la station Esprit Occitanie. Bonne semaine à toutes et à tous.